Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans LP de Nuit. LP de Nuit, c'est la référence à écouter pour être au plus proche du lycée. Vous retrouverez ici nos internes et leurs chroniques pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Et n'hésitez surtout pas à nous retrouver en ligne sur le site de Delta FM ou bien sur notre page YouTube. Nous nous retrouvons pour notre première émission en direct et l'équipe de LP de Nuit est presque au complet. Avec un combat entre rap et rock par Néo, l'actu culturel de Chloé, la nuit archi-intéressante de Gabriel, et nous terminerons par un voyage au travers du cosmos accompagné de Leandro. Maintenant que je vous ai présenté notre équipe de chroniqueurs et de chroniqueuses pro, il est l'heure de lancer le générique, maestro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, pas trop stressé par le direct ?
Ça va.
Ça va, ça tranquille. Va.
On est bien préparé.
Tranquille. Ça. J'attendais ça depuis un moment, ouais. Donc,
Oui, c'est vrai.
Ok, ben je vous propose qu'on attaque tout de suite avec une petite mise en abîme entre le rock et le rap. C'est à toi, Néo.
Absolument. Alors, ce soir, on va parler donc du rap et du rock et donc quel genre domine la culture actuelle. Parce qu'il faut savoir que pendant des décennies, le rock était la musique dominante, donc symbole de la rébellion, des concerts mythiques et des solos de guitare endiablés. Puis, petit à petit, le rap est venu prendre sa place, imposant son rythme, ses textes incisifs et son influence culturelle massive. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? On va faire un petit retour dans le passé, sur le règne du rock, donc des années 50 aux années 2000. Le rock est né dans les années 50, inspiré du blues, avec des artistes comme Chuck Berry et Elvis Presley. Il devient rapidement un phénomène culturel qui va dominer les décennies suivantes. Donc des années 60 à 70, l'âge d'or avec les Beatles, les Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, etc. Dans les années 80, explosion du hard rock et du metal avec AC/DC, Metallica, et du rock alternatif avec The Cure et U2. Dans les années 90, Nirvana et le grunge, renversent la tendance, tandis que le punk et le Britpop cartonnent avec Green Day et Oasis. Le rock est alors partout, radio, télévision, festival, c'est la musique des foules. Mais il y a quelque chose qui se prépare en coulisses, c'est l'ascension du rap, du quartier à la culture pop mondiale. À la fin des années 70, le hip-hop naît dans le Bronx, porté par les DJ et les MC qui transforment les soirées en bloc party endiablés. Le rap évolue rapidement et gagne du terrain. Donc des années 80, avec l'essor de Public Enemy, Run, DMC, NWA... Donc un rap contestataire et puissant. Dans les années 90, on trouve l'âge d'or avec Tupac, Biggie, Dr. Dre, Jay-Z, Nas, Eminem, etc. Puis dans les années 2000, le rap devient un business énorme avec Kanye West, Lil Wayne, 50 Cent. Et actuellement, donc des années 2010 à 2020, le rap domine les plateformes de streaming avec Drake, Travis Scott, Kendrick Lamar et la montée en puissance du rap français avec PNL, Damso, SCH et Jul, par exemple. Donc le rap, c'est pas juste une musique, c'est un mode de vie, c'est une influence sur la mode, la danse et les réseaux sociaux. Et donc on va voir pourquoi est-ce que le rap a pris le dessus sur le rock. En chiffres, le constat est clair. Premièrement, le rap est le genre le plus écouté sur les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music et YouTube. Le rock souffre d'un manque de renouvellement. Donc les grands groupes actuels n'ont plus l'aura des légendes passées. Le rap évolue d'ailleurs constamment. Il absorbe des tendances, mélange les genres, afrobeat, électro, reggaeton, et s'adapte aux réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. Et ensuite, le rock a perdu son rôle de musique contestataire, et le rap a pris cette place en incarnant les révoltes d'aujourd'hui. Mais attention, le rock n'a pas dit son dernier mot. On va voir donc maintenant le retour du rock et le futur de la musique, parce que depuis quelques années, on voit des signes d'un retour du rock. Donc le pop-punk revient en force avec des artistes comme Machine Gun Kelly ou Olivia Rodrigo. Donc des groupes comme Maneskin ou The 1975 redonnent de la fraîcheur au rock. Et les collaborations entre rap et rock explosent. Lil Deep, Post Malone, Travis Barker, donc qui bossent avec des rappeurs. Donc on peut se poser la question de à quoi ressemblera la musique de demain. On peut imaginer une fusion totale des genres entre le rap, le rock, l'électro, l'hyperpop et tout ça. On peut se poser la question aussi de l'influence de l'IA dans la musique, parce que de plus en plus d'artistes utilisent l'intelligence artificielle pour en créer. D'ailleurs, on en a parlé dans une chronique précédemment. Et on peut parler aussi du retour des guitares, parce que même les rappeurs intègrent des riffs de guitare dans leur prod. Donc peut-être qu'au final, le débat rock vs rap n'aura peut-être plus lieu d'être, parce que la musique de demain sera un mix des deux. Donc pour conclure, On peut se dire que c'est un faux débat parce que voilà, on peut se demander est-ce que le rap il a vraiment gagné la bataille contre le rock. Bah oui et non. Oui, parce que le rap domine les charts et les tendances et a une grande influence culturelle. Et non, parce que le rock reste un pilier incontournable et pourrait renaître sous une nouvelle forme. Donc vous, quel est votre genre préféré? Est-ce que c'est le rap, le rock ou les deux? Et merci d'avoir écouté cette chronique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat musical.
Merci beaucoup Néo de nous avoir parlé de ça. Alors toi du coup, plutôt rock, plutôt rap?
Plutôt rock.
Plutôt et... rock, ça m'étonne pas.
Même métal si je devais approfondir.
Oh, c'est surprenant, tiens, vu les chroniques que tu nous as fait dernièrement. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça en tout cas.
Avec plaisir.
Et je vous propose qu'on s'attaque tout de suite à un petit bout de voyage jusqu'à notre bâtiment de la semaine. Coucou Gabriel.
Bonsoir. Eh bien aujourd'hui, on va voir le phare d'Alexandrie. Donc, bonsoir, comme je disais tout à l'heure, on va parler du phare d'Alexandrie ce soir. Donc, il faut vous imaginer dans le port d'Alexandrie sous un soleil éclatant. Et depuis la mer, vous observez l'une des sept merveilles du monde antique, le phare d'Alexandrie. Il surplombait le port de la ville fondée par Alexandre le Grand. Il a guidé les marins à travers les âges, du 3e siècle avant notre ère jusqu'au Moyen Âge. L'emplacement du phare fut soigneusement choisi. Au large d'Alexandrie se trouvait la petite île de Pharos. Elle faisait partie intégrante de la culture grecque, puisque c'est là que Ménélas, donc un des trois guerriers grecs de l'Iliade et l'Odyssée, s'était échoué en revenant de la guerre de Troie. D'après Plutarque, donc Homère apparut en rêve à Alexandre le Grand pour lui citer les vers qu'il avait composés au sujet de l'île. Et donc il a vu en rêve, sur l'onde houleuse aux bouches d'Égyptos, certaines îles s'élèvent, on l'appelle Pharos. Il s'y trouve un bon port. Donc à son réveil, ce serait ici qu'Alexandre le Grand aurait décidé de poser son phare et donc sa ville d'Alexandrie. La lumière du phare d'Alexandrie porta si loin que le pharos d'Alexandrie, donc le nom de l'île, donna aujourd'hui différents noms pour dire phare. Donc il devient le pharo des Italiens, le phare des Français et même le fir des Suédois. Donc c'est tout d'abord Ptolémée Ier, qui est donc le fondateur de la dynastie grecque des pharaons d'Égypte, qui lança la construction du phare d'Alexandrie. Car il prit le contrôle de l'Égypte après la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ. La construction du phare avait débuté entre 299 et 289 avant notre ère et a duré une quinzaine d'années. Le projet fut achevé lors du règne de son fils Ptolémée II et donc, à l'instar de tant des fils ptolémaïques, donc qui dataient de cette dynastie, il était vraiment remarquable et vraiment majestueux. Il faut estimer, donc Pline l'Ancien, qui était un historien de l'époque, a estimé que ça coûtait à peu près 800 talents, donc environ 23 tonnes d'argent, pour sa construction. Ce qui est à peu près un dixième du trésor des pharaons pour l'époque, donc ce qui est quand même immense. Par comparaison, donc le Parthénon dont je vous ai parlé la semaine dernière, lui, érigé un siècle et demi plus tôt, bah, il n'avait nécessité que, entre guillemets, 469 talents. Donc beaucoup plus de talents, beaucoup plus d'argent, donc c'est vraiment un projet qui a nécessité énormément de frais de la part des dirigeants. Donc le phare d'Alexandrie, il remplissait son rôle à merveille. Il faut savoir que le jour des marins pouvaient s'en servir pour naviguer à vue et la nuit ils pouvaient repérer le port sans mal. Selon l'historien d'ailleurs Flavius Joseph, le phare s'élevait à près de 105 mètres et était visible à 55 km de distance. Donc c'est une journée complète en mer. Vous pouvez commencer la journée, voir le phare et arriver au port, il était encore visible. Donc le feu brûlait au sommet du phare et il était si intense qu'on pouvait le prendre pour une étoile dans le ciel. En journée, la fumée qui en émanait le rendait visible à l'horizon. Le bois était une ressource très rare en Égypte, et bon nombre de spécialistes présents pensent qu'on retenait le feu avec plutôt de l'huile ou des papyrus, d'autres éléments que le bois. On y a aussi vraisemblablement installé une grande plaque de métal poli, ou du moins une sorte de glace pour réfléchir la lumière, donc tout en haut du phare. Il a aussi donc déduit que les travaux du phare devaient être un bâtiment donc plutôt à 3 étages. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le bâtiment est complètement détruit, donc on n'a plus aucune trace, on peut seulement le reconstituer. Donc des historiens ont déduit qu'il y avait 3 étages. Tout d'abord une base carrée, ensuite une colonne octogonale, donc il faut imaginer un octogone qu'on va rallonger, et une petite tour ronde avec donc bien sûr le phare, la lumière, et une statue qu'on n'a pas pu formellement identifier. Ça pourrait s'agir d'une statue de Zeus, de Poséidon ou d'Hélios, qui est donc le dieu du soleil. La base devait mesurer environ 70 mètres de large et une hauteur de 70 mètres sur une largeur de 30 mètres. On y accédait donc par une rampe à arcades depuis donc les côtes à côté. Il y avait une 50aine de pièces qui servaient d'habitation au personnel chargé de l'entretien du phare ou d'entrepôt de combustible qui étaient aménagés tout autour d'une rampe intérieure. Et donc ça explique les fenêtres asymétriques sur l'extérieur, parce qu'il y avait une rampe à l'intérieur qui permettait de suivre donc l'axe pour accéder à l'étage. Et donc à l'étage, il y avait une terrasse qui était munie d'une rambarde de à peu près 2,30 mètres, qui était entourée de 4 tritons, donc qui étaient aux 4 coins du carré, et qui formait donc un peu le souffle du phare, donc qui maintenait son rayonnement. Ensuite, le deuxième étage était de forme octogonale et quant à lui mesurait 34 mètres de hauteur. Et il comportait un escalier intérieur donc pour accéder bien sûr à la lanterne du phare tout en haut. Donc ce phare était destiné à demeurer un symbole éclatant de fierté et de prouesse technique. On peut l'apercevoir d'ailleurs sur des pièces romaines frappées à Alexandrie entre l'an 82 et l'an 192, donc bien plus tard après sa construction. Mais malgré sa renommée, il ne résistera pas au ravage du temps. Au milieu du 1er siècle avant notre ère, la dernière reine de la dynastie Lagide, donc Cléopâtre VII, dû donner le premier ordre de restauration de la tour, donc déjà à l'époque, il fallait le restaurer. Mais c'est surtout quand les Arabes conquirent l'Égypte environ 700 ans plus tard, que le phare, quand il était toujours là, mais petit à petit, en fait, il s'est un peu détruit. Entre les conquêtes et de nombreux séismes, en fait, entre la période donc, de l'Égypte et du Moyen-Âge, il a été beaucoup détruit. Au XIVe siècle, donc Ibn Bouta, qui est un célèbre voyageur marocain, fit part de son désarroi quant à l'état piteux du phare. On a encore des traces aujourd'hui pour expliquer que déjà à cette époque-là, il était en très mauvais état. Donc il était plutôt un tas de ruines et un sultan mamelouk ordonna d'utiliser les vestiges pour la construction d'une citadelle qu'il appela la citadelle de Kat Bey, qui est encore visible aujourd'hui. Et donc c'est cette citadelle qui a pris la place du phare. Et les seuls vestiges qu'on a retrouvés étaient sous l'océan. Donc le phare fut l'une des 7 merveilles du monde antique, comme je vous ai dit, mais l'une des plus résistantes, car les seuls qui résistent aujourd'hui sont encore les mausolées d'Al-Kiranas ou encore les pyramides de Khéops qu'on connaît tous aujourd'hui qui font partie de ces 7 merveilles. On a longtemps pensé que la construction avait été dirigée par l'architecte Sostratos de Cnide, dont le nom est carrément donné par le géographe Strabon, donc on a des preuves de ça, mais en fait quand on traduit le texte on se rend compte qu'il s'agirait plutôt d'un commanditaire, donc quelqu'un qui aurait payé le bâtiment, notamment les statues. Mais en fait ça n'écarte pas non plus l'hypothèse que ça pourrait être carrément Euclide lui-même, donc un grand mathématicien qui aurait construit, parce qu'à l'époque il résidait à Alexandrie. Mais il n'y a aucune preuve qui relie directement Euclide à la construction du phare, donc traditionnellement on va quand même dire que c'est Sostratos de Cnide qui l'a construit. C'est encore une figure qui est très présente aujourd'hui, malgré le fait qu'il ait disparu. On l'a vu notamment dans certains films, comme par exemple Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, dans lequel il apparaît sous forme de maquette 3D, si on peut dire. Donc merci de m'avoir écouté, mais avant de nous quitter, je vais vous faire un petit quiz avec des choix multiples pour que vous puissiez participer. Et aussi, vous, auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à participer aussi. Donc, en combien d'années a été construit le phare d'Alexandrie ? Réponse A, 15 ans. Réponse B, 20 ans. Réponse C, là on va plus loin, c'est 100 ans. Donc 15, 20 ou 100 ?
Sachant que ça a débuté les premières dynasties de l'Égypte grecque, je dirais quand même entre soit 20, soit 100 ans, enfin le plus grand.
Est-ce que vous avez d'autres réponses à apporter ?
Je vais dire 20 ans.
20 ans ? Ouais. Eh bien non, c'était malheureusement pas la bonne réponse. Eh bien c'était 15 ans.
Il
faut savoir qu'il a commencé en 323 avant Jésus-Christ et il s'est fini 15 ans après en fait. Il a duré à peu près une quinzaine d'années. On n'a pas de certitude sur le chiffre exact, mais 100 ans c'est un peu long. Mais tu fais bien de remarquer qu'il a vécu très longtemps.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a eu de nombreuses dynasties, mais il a dû être un peu rénové à travers les années. Enfin, c'est vraiment un bâtiment qui est assez ancien. Mais un phare, même s'il était assez immense, ça prend moins de temps à construire, par exemple, qu'un temple comme le Parthénon, qui a pris beaucoup de temps quant à lui.
Oui, deuxième... c'est ça, c'est qu'on est biaisé en fait. Ouais, c'est tous ça, les bâtiments que tu nous as dit, ils ont mis 200 oui, ans, non, non, ouais. 30 ans, là, 50 ans.
15 ans, c'était tranquille.
Ouais, c'est ça, on s'est dit, bon, bah, on va voir au plus grand en fait. Voilà.
Surtout le phare d'Alexandrie qui n'est ouais. pas rien.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, deuxième question, peut-être un peu plus simple, c'est quel est le nom de l'architecte ? Donc, réponse A, Sostratos de Cnide. Réponse B, Euclide. Ou réponse C, Antoine Marlex.
Antoine Marlex. Je pense que c'est Antoine.
Antoine, bon architecte, je connais très bien personnellement.
plus sérieusement, je dirais Euclide.
Euclide.
Non, c'est la réponse A, mais ouais. on a eu Sostratos, des suspicions voilà. sur le fait que ça puisse oui. être Euclide.
Et bien oui. joué Lola, tu as bien écouté la chronique.
Ça, c'est, vous voyez ça, c'est...
effectivement, on a effectivement cru que c'était Euclide ou l'un de ses élèves qui aurait pu construire, parce qu'ils habitaient à Alexandrie à l'époque, donc c'est possible, on n'a aucune certitude. Mais sur la stèle du bâtiment, c'est bien marqué Sostratos de Cnide, donc on pense que ça peut être l'architecte.
Déçu que ce soit pas Antoine Marlex.
ouais.
Ensuite, dernière question, quelle est la taille de ce phare ? Donc, on est sur différentes tailles. Première, 105 mètres, attention. Deuxième, 200 km. Et troisième, 200 mètres.
Je pense que c'est 200 km.
Tu nous parlais de 34 mètres d'escalier, je crois, à un moment.
De hauteur, pour
de
le deuxième étage.
Hauteur pour le deuxième étage. Donc,
et
déjà
le premier étage à 70.
Ouais. Voilà, donc...
ça fait beaucoup.
Sachant qu'à la lande, il faut compter à
long terme. Je pense que c'est 200 mètres.
Oh, ouais. Je pense que c'est 105 mètres.
Ouais, 105.
Eh bien, c'était 105, effectivement, c'était la bonne
allez,
réponse.
Allez, 70 plus 30, il doit y avoir 5 ouais, mètres exactement. De rab pour ouais. le dernier étage.
Voilà, alors, vous avez quand même 105. Pas mal de bonnes réponses.
Ouais. ouais, on est pas mal par rapport à la ouais. semaine dernière. La semaine dernière, on n'avait rien du tout. Ouais. Cette fois-ci, on est bien, on est bien.
D'ailleurs, si vous voulez retrouver la musique que j'ai mis en fond de cette chronique, donc c'est une musique du film directement Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Donc directement en lien avec cette chronique.
Composée voilà. par Antoine Marlex.
non, toujours pas, mais ça pourrait être drôle.
Eh bien, merci beaucoup, Gabriel, de nous avoir un peu fait avancer sur tout ça. Je pensais que ce phare avait été totalement, principalement détruit par la main de l'homme, mais finalement, c'est beaucoup de causes ouais. naturelles, ben, l'érosion, tout ça. En plus, ouais. je suppose qu'au bord de l'océan, forcément, enfin de la mer.
Ouais, c'est
forcément.
Surtout de nombreux séismes. Ouais. Et donc, après, on a au 15e siècle un historien qui serait venu sur place, qui a décrit un tas de ruines, quoi. Donc, ouais. il ne restait plus grand-chose. Et après, la personne qui est donc à récupérer l'Égypte, donc les Arabes qui ont récupéré
oui,
ce territoire,
après, se sont
ils ont construit
des...
autre chose
des...
par-dessus avec les pierres.
Les pierres, quoi.
Donc tout simplement, ça...
Comme ça se faisait beaucoup
oui,
en France à ce moment-là aussi. Eh bien, merci beaucoup, Gabriel. Et je propose qu'on laisse Chloé nous présenter la musique du jour qu'on va écouter.
Bonjour à tous, eh bien sachez que la musique du jour c'est Drapeau de David, on en avait parlé la dernière fois, c'est une musique de son album Le But du jeu, donc un album axé surtout sur le rock, voilà, donc je vous laisse l'écouter.
J'aurais pas dû vivre les tuyaux à l'envers, nourris par des machines. C'est dans une boîte en verre qui m'a attaché que je me suis accroché pour voir sourire ma mère.
Faut pas me demander pourquoi je crois au miracle. Pourquoi je crois au miracle. La vie tient qu'à un fil, tient qu'à un fil. Mes liens est en titane. Faut pas me demander pourquoi je suis encore là. Pourquoi je me suis relevé. Et si je suis resté, c'est pas. Je sais pas pour vivre à moitié. Pour vivre à moitié. Hé hey oh, j'vois la vie comme un cadeau. La cicatrice que j'ai dans le dos, dans le dos. J'la porte comme un drapeau. We'll be right back.
con, je saigne, c'est que je suis en vie, tu vois. Une armure invisible que j'ai gardée en moi, devenu invincible, je suis déjà mort une fois. Faut pas me demander pourquoi, je crois au miracle. Pourquoi je crois au miracle? La vie tient qu'à un fil, tient qu'à un fil. Les miens lutent en titane. Faut pas me demander pourquoi, je suis encore là. Pourquoi je me suis relevé? Et si je suis resté, c'est pas, je suis resté, c'est pas pour vivre à moitié. Hey oh, je vois la vie comme un cadeau. La cicatrice que j'ai dans le dos, je la porte comme un drapeau.
Merci beaucoup Chloé, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on vient d'écouter ?
C'était Drapeau de David sur son album Le But du Jeu.
Parfait, merci. Et je vous propose qu'on reste sur des sujets d'actualité, qu'on reste toujours avec toi Chloé, pour enchaîner sur la chronique culture.
Eh oui, bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique sur la culture. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit ces derniers mois, l'avenir de la culture en France. Car en effet, entre les coupes budgétaires et les réformes du Pass Culture, la colère commence à se faire sentir chez les jeunes et les travailleurs culturels. Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Eh bien, depuis le début de l'année, le gouvernement a annoncé des réductions de budget pour la culture, impactant de nombreuses structures comme les théâtres, les festivals et les institutions artistiques. Résultat, des annulations de spectacles, des fermetures de lieux et une inquiétude grandissante chez les artistes et les professionnels du milieu. Un autre sujet qui fait débat, c'est la réforme du Pass Culture. Ce dispositif qui permettait à nous, jeunes, de bénéficier d'un budget pour découvrir des œuvres culturelles a été revu. La part individuelle pour les moins de 17 ans a été supprimée et le montant offert aux jeunes de 18 ans, qui était auparavant de 300 euros, a été revu et à présent de 150 euros. Suite à cela, sur les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes expriment leur déception, estimant que cela limite leur accès personnel à la culture. De plus, petite info locale, une centaine d'élèves du LP2I ont bloqué l'établissement le 20 février, en grande partie contre ces réformes. Malgré tout, il reste des bonnes nouvelles. Certaines villes, comme Avignon, continuent de briller en tant que capitale culturelle et de nombreux artistes trouvent des moyens alternatifs pour partager leur art, notamment via les réseaux sociaux. En bref, la culture traverse une période mouvementée et le débat est loin d'être terminé. Voilà, c'était tout pour cette chronique. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt.
Merci beaucoup de nous avoir partagé ce point d'actualité nationale et locale au niveau de la culture. Toi, au niveau du Pass Culture, vu que tu seras forcément impliqué par ça, qu'est-ce que t'en penses personnellement ?
Alors personnellement, je suis bien sûr déçue, comme je pense tous les jeunes. Je pense que c'est très rare de trouver un jeune qui n'est pas déçu par le fait d'avoir moins d'argent pour profiter de la culture. C'est-à-dire que moi, là, j'ai 15 ans. À 16 ans, j'étais censée avoir 30 euros. J'aurais rien. À mes 18 ans, j'aurais la moitié de ce qu'on m'avait promis. Au bout d'un moment, en effet, je ne suis pas très, très heureuse.
Merci beaucoup d'avoir partagé ça, Chloé. Et je vous propose qu'on termine par un petit bout de voyage avec Leandro aux quatre coins du cosmos.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis Leandro et bienvenue dans les Récits du Cosmos, et cette fois en direct, une chronique sur l'astronomie et tout ce qui l'entoure. Ce soir, nous allons parler d'un phénomène aussi mystérieux que spectaculaire, les aurores boréales et australes. Ces voiles lumineux qui ondulent dans le ciel nocturne semblent tout droit sortis d'un rêve. Pourtant, ils résultent d'un processus bien réel et fascinant. Les aurores se forment quand des petites particules envoyées par le Soleil, qu'on appelle vent solaire ou tempête solaire, voyagent jusqu'à la Terre et rencontrent son champ magnétique. Ce champ les dirige vers les pôles, où elles rentrent en contact avec l'air qui nous entoure. Ce contact crée ces magnifiques lumières colorées dans le ciel. La plupart du temps, elles sont vertes, mais on peut aussi voir du rouge, du bleu ou du violet, selon les éléments de l'air touchés et à la hauteur où cela se produit. Depuis la nuit des temps, ces lumières dansantes ont nourri l'imaginaire des civilisations. Les Vikings croyaient qu'il s'agissait des reflets des amures des Valkyries, ces guerrières mythologiques qui guidaient les héros tombés au combat vers le Valhalla, leur paradis. En Chine ancienne, on pensait qu'elles représentaient un dragon de feu combattant dans le ciel. Quant au peuple amérindien, certains croyaient que les aurores étaient des messages des esprits de leurs ancêtres. Aujourd'hui, nous savons que ce phénomène est directement lié à l'activité du Soleil. Lorsque notre étoile traverse des périodes de forte activité, les vents solaires deviennent plus intenses, augmentant ainsi la fréquence et l'intensité des aurores. Si vous rêvez d'en observer, sachez que les meilleures périodes sont les nuits d'hiver, loin de la pollution lumineuse, dans des régions proches des pôles, comme le nord de la Norvège, le Canada ou l'Islande. Pour les aurores australes, direction l'Antarctique ou à la pointe sud de la Nouvelle-Zélande. Même en dehors de ces zones, lors d'intenses tempêtes solaires, il est parfois possible d'apercevoir des aurores plus au sud, notamment en Europe du Nord ou aux États-Unis. On en a eu d'ailleurs lors du 10 mai l'année dernière. Les aurores nous rappellent que notre planète est en perpétuel dialogue avec le cosmos. Elles sont l'un des rares phénomènes où la science rencontre la magie, où la physique s'entrelace avec les légendes anciennes. Aujourd'hui encore, elles continuent d'inspirer les artistes, les voyageurs et les scientifiques du monde entier. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel nocturne, rappelez-vous que peut-être, quelque part dans le monde, une aurore danse silencieusement sous les étoiles, témoignant de la beauté et du mystère de notre univers. D'ailleurs, petite info, ce samedi 29 mars, il y aura l'éclipse solaire partielle que je vous avais parlé lors de la dernière chronique. Elle aura lieu entre 11h et 13h et son pic sera juste avant midi. Alors ne la ratez pas, en France nous pourrons la voir environ 20%. Merci de m'avoir écouté, c'était Leandro et à une prochaine pour plus de récits du cosmos.
Merci beaucoup de nous avoir partagé ça, Leandro, c'était très beau. On a hâte de voir cette éclipse solaire. On rappelle que pour les éclipses solaires, il faut avoir des lunettes spéciales.
Il faut une protection spéciale ou alors la regarder indirectement en appareil photo, ça passe. L'appareil photo d'un téléphone, ça pourrait passer, mais attention quand même aux yeux parce que
oui.
Pas dire.
On privilégie quand même les lunettes spéciales.
Exactement.
D'accord, et ben merci beaucoup. Merci de nous avoir fait voyager au travers du monde magique des aurores. Et c'est sur cela que l'on se quitte, très chers auditeurs, très chères auditrices. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette première émission en direct de LP de nuit. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site et sur la page YouTube de Delta FM. Merci à Néo, merci à Gabriel, Chloé et Leandro.
Merci à toi.
Merci à vous de nous écouter.
Et on se retrouve la semaine prochaine à 18h sur Delta FM 90.2. C'était Lola pour LP de nuit.
Thank you.